Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5. C'est la matinale. Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Yoann Bouguet, secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Yoann Bouguet, on va parler, sans surprise, de ces annonces qui ont été faites par la Première ministre Elisabeth Borne hier soir concernant les premières, j'allais dire, propositions de cette réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite beaucoup de réactions. Tout d'abord, on a vu cette union syndicale et la CFDT en avant, la CFDT qui est plutôt un syndicat qui négocie, qui discute, et là... La CFDT suit la règle des autres syndicats.
Alors la CFDT suit pas la règle des autres syndicats. La CFDT est dans l'union des syndicats au niveau confédéral et dans les territoires pour lutter justement contre la réforme. On a eu notre temps de concertation. Et là, je voudrais attirer un peu l'attention, c'est que c'était bien de la concertation et pas de la négociation. Mmh. Et cette concertation, elle a été demandée à la CFDT parce que le gouvernement, à la base, sur le projet des réformes des retraites, ne voulait pas consulter personne. Il voulait passer son projet en force. Mmh. Donc c'est bien la CFDT qui a demandé la concertation et qui a eu les 3 cycles de concertation. On a fait notre boulot de syndicaliste, on a poussé, comme disait Laurent Berger, dans tous les interstices de dialogue, nos mesures, nos avancées, nos revendications. Visiblement, le gouvernement ne les a pas écoutées parce que la ligne rouge a été franchie. On a toujours dit la ligne rouge, c'est 65 ans, 64 ans, c'est non. Mmh. Là, en l'occurrence, vu les annonces d'hier soir d'Elisabeth Borne, elle a franchi la ligne rouge.
Cette ligne rouge de l'âge, avec beaucoup de nuances et de modulation, on va en parler évidemment, de cette réforme plus en profondeur, si j'ose dire. Cette ligne rouge, pourquoi ne pas vouloir aller plus loin? Parce qu'on entend aussi ceux qui sont pour cette réforme de la retraite, dire des retraites, en l'occurrence des régimes de retraite, dire mais oui, il faut aller plus loin car on n'aura pas assez d'argent pour financer les retraites plus tard.
Alors, la réforme, elle est brutale, injuste. Ce sont vraiment les travailleurs les plus modestes, là, on s'attaque aux travailleurs les plus modestes qui vont devoir travailler beaucoup plus longtemps, enfin on parle de 2 ans quand même, 2 ans de travail, 2 ans de travail souvent pénibles, souvent avec des carrières hachées, voilà, ce sont vraiment cette cible-là qui va travailler, c'est beaucoup de personnes, c'est des millions de personnes, des millions de travailleurs. Il n'y a pas de justification. Enfin, on parle toujours, oui, il faut... Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur démographique où on va nous dire, oui, l'allongement de la vie justifie. Non, on ne justifie pas. Après, c'est un choix social, sociétal. Après, il y a le côté économique. Alors, le côté économique, j'ai envie de vous dire, il a bon dos parce que rien ne justifie cette réforme. On a le temps, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas péril dans la demeure. Si je vous refais un petit historique, oui, alors, en 2003, il y avait vraiment le système des retraites était menacé. Là, la CFDT, pour le coup, a fait... ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire négocier et a pris François Chérec, a été à la manœuvre et ça lui a valu beaucoup de critiques et a pris ses responsabilités. On a fait cette mesure. Après, il y a eu la réforme au niveau de 2013 où là aussi il y avait des gros problèmes de financement et à terme c'était très compliqué. Là aussi la CFDT a contribué à la loi Touraine, donc pour sauver le régime des retraites. Là, à l'état actuel des choses, le corps le dit bien, il y a 12 milliards, je crois, de déficit prévus. Prévu, c'est qu'une prévision. Là, actuellement, on est en bénéfice, quoi. On fait on fait du bénéfice. Donc, c'est qu'une prévision, c'est une prédiction même. Il n'y a pas d'urgence. On a largement le temps de discuter et pour trouver des solutions. Et en plus, des solutions, il y en a énormément et qui n'ont pas du tout été abordées, que le gouvernement n'a pas du tout retenu.
Yoann Bouguet, on peut penser que cette réforme des retraites, des régimes de retraite, finalement, c'est une posture politique, c'est l'envie de passer en force, de laisser une marque pour ce gouvernement.
Alors, je ne sais pas si c'est pour laisser une marque. Après, Emmanuel Macron l'avait dit dans son programme, donc c'est pas une surprise. On sait que voilà, le patronat aussi militait dans ce sens.
D'ailleurs,
sait que la droite...
Le MEDEF s'en est réjoui, finalement,
bien sûr, effectivement,
de cette future réforme.
Donc après, moi, je m'adresse au MEDEF, s'ils s'en réjouissent, très bien, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'emploi des seniors? Parce que c'est vraiment là un des gros axes de travail. Parce que On demande beaucoup aux travailleurs. Là, on va demander 2 ans de travail de plus supplémentaire pour rien, vraiment pour rien, aux travailleurs. Et qu'est-ce qu'on a demandé au patron? Quel est l'effort l'entreprise va mettre? Moi, je ne l'ai pas vu, en fait, dans toutes les réformes. À chaque fois, je crois qu'on va demander une augmentation des cotisations retraite. Sur la cotisation patronale, sauf que de l'autre côté, pour que ça soit isoku, il baisse du coup la cotisation pour les actions de travail. Enfin, c'est pas entendable. De l'autre côté, on va demander 2 ans de travail en plus des salariés, et l'entreprise, elle, ne participe pas, les patrons ne participent pas. Donc non, c'est pas entendable.
On entend beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent avoir du mal à rentrer sur le marché de l'emploi parce que soit ils ont fait de longues études, soit au contraire, ils n'ont pas eu la chance de faire de longues études, mais ils sont cantonnés à des petits boulots, des boulots précaires. Ça remet aussi en perspective le fait de pouvoir faire rentrer les jeunes et peut-être laisser les plus anciens choisir. Voilà, soit on veut travailler plus longtemps, on imagine bien que quelqu'un qui va travailler dans un environnement confortable et sans trop de contraintes aura envie de continuer dans cet environnement de travail, alors que quelqu'un qui travaille dans des métiers pénibles, on peut imaginer des maçons, des gens du bâtiment et bien d'autres, ou dans des usines, auront envie de partir plus tôt. Est-ce que c'est pas là justement la clé du problème ?
La clé du problème, c'est pas la clé du problème, mais c'est une des clés du problème. Après, c'est ce qu'on demande, c'est vraiment du dialogue. Et là, par exemple, dans le cas que vous citez, ce qui serait pertinent de faire, c'est faire peut-être des accords d'entreprise ou de branche qui permettent aux seniors de travailler, de réduire leur activité en fin de carrière pour voilà, terminer tranquillement, pour pas passer brutalement, parce que si certaines personnes le vivent très mal, de passer brutalement du travail intensif à la retraite, et de pouvoir surtout transmettre aux jeunes, donc laisser les jeunes arriver sur le marché du travail, transmettre aussi leurs compétences, leur expérience, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup à transmettre, et du coup faire une espèce de tutorat, de transmission, et ainsi le marché du travail se portera mieux.
Et on gardera le savoir-faire des entreprises ou des petites entreprises ou des artisans.
Il y aura moins de pertes de compétences, ça c'est clair.
Il y a aussi les régimes spéciaux. Alors c'est la fin des régimes spéciaux. Alors là on a dit, en tout cas Elisabeth Borne l'a dit, c'est dans un souci d'égalité pour que finalement il n'y ait plus de régimes spéciaux, des gens un petit peu plus, alors je mets bien les guillemets qui s'imposent, un peu plus privilégiés que d'autres. Est-ce que c'est là aussi une bonne idée ou est-ce que finalement il ne fallait pas toucher aux régimes spéciaux?
Pour l'instant, c'est clair, il n'y avait pas d'urgence. Donc pour l'instant, les régimes spéciaux, il ne fallait pas forcément y toucher. Il fallait encore, à mon sens et à notre sens au niveau de la CFDT, discuter sur une mesure peut-être plus globale pour voir comment on pouvait faire pour les régimes spéciaux. Pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence.
Alors les régimes spéciaux, on le dit, ça concerne EDF, la RATP, l'énergie, la Banque de France, par exemple. Est-ce que là aussi, il y avait peut-être un rééquilibrage néanmoins entre ces régimes spéciaux et le régime général à opérer ?
De rééquilibrage, on sait que certains régimes sont déficitaires. Mais le régime général, oui, est déficitaire. Mais c'est pareil aussi. Il faut comparer ce qui est comparable. Le déficit était de 3%, d'accord, sur un budget de plus de 325 millions, je crois, de milliards, ce qui représente rien. Quand on voit le déficit budgétaire de l'État, ce n'est rien. Donc il n'y avait pas, comme je le redis, péril dans la demeure. On a le temps de discuter, trouver des solutions concrètes. Il y a plein d'autres possibilités pour financer. Juste payer les femmes au même salaire que les hommes, par exemple.
Ça permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses.
C'était 2-3 euros. Il y a plein de petites choses. L'augmentation des cotisations patronales aurait pu largement subvenir aux besoins et sans des augmentations fulgurantes.
Il y a aussi la pénibilité au travail. Alors là, il y a une ouverture de la part du gouvernement qui dit, voilà, il faut tenir compte des emplois pénibles. Est-ce que, pour le coup, là, c'est une bonne idée dans cette réforme ?
Alors, tenir compte de la pénibilité, bien sûr. Alors, il faut juste rappeler quand même qu'en 2007, avant, il y avait le fameux compte C3P. C3P, où il y avait les critères de pénibilité. Donc il y avait notamment les postures, la manutention, la vibration et les produits chimiques. Ces critères de pénibilité-là représentent 95% des maladies professionnelles. C'est dire, en 2017, quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a supprimé ces critères. Voilà. Donc, parce que le MEDEF, le patronat, trouvait que c'était une usine à gaz et très compliqué à mettre en place. On y arrivait quand même, hein, on va pas se le cacher. Après, une bonne mesure de réintégrer, donc moi, de ce que j'ai entendu des annonces hier soir, il y avait la manutention, la charge lourde et les postures pénibles, qui ont été, il m'en manque un, les produits chimiques.
Les produits chimiques, voilà.
Ils sont passés où? C'est plus pénible. Parce que dans la méthode, c'est pareil, c'est plus du tout, ça vient de l'entreprise et où l'entreprise faisait son propre diagnostic. Alors, je mets des guillemets, mais de ce que j'ai entendu, ce serait bien des experts de la sécurité sociale qui ont des statistiques macro au niveau national, qui diraient, bon, alors tel métier est pénible, tel métier est pas pénible, voilà, donc, et après, ce serait discuté en branche, et donc, pour pouvoir faire des accords de branche sur la pénibilité, en utilisant le fonds des 1 milliard d'euros de mise à disposition.
Avec néanmoins des pénibilités qui ne se voient pas, on peut imaginer que même un cadre dans une entreprise peut se retrouver en burn-out parce qu'il y a une forme de pénibilité psychologique dans son.
C'est ça, en fait, c'est quid de l'évaluation. Ok, ce sont des experts de la Sécu qui vont le faire. Là encore, on n'a pas de dialogue sur quel métier va être pénible.
Et quels critères sont retenus.
Et là où moi j'attire l'attention, c'est pareil, j'ai entendu que c'est la mise du coup en retraite anticipée de fait de ces critères de pénibilité n'est pas automatique. Ça veut dire que vous vous exercez dans un métier pénible. Reconnu comme pénible du coup par la sécurité et par votre branche d'activité professionnelle, vous devrez passer devant un médecin du travail pour pouvoir valider le fait que oui, vous avez bien été exposé à la. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Là aussi, on manque de médecins du travail. On voit bien que sur le département, sur les Côtes d'Armor, on en manque beaucoup. Les rendez-vous ont du mal à être tenus. Donc je vois mal comment on pourrait mettre en place cette mesure. Après, faut la retravailler.
On entend d'ailleurs des voix à la sécurité sociale qui dénoncent cet état de fait en disant « nous, on ne pourra pas se réassumer ».
Voilà. Oui, sûrement, j'ai pas entendu.
L'âge, alors on le disait en commençant, c'est 2 ans de plus, ces 2 ans de plus. La CFDT, elle aurait été favorable, par exemple, à garder l'âge de la retraite à 62 ans et pourquoi pas à 60 ans? Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent pourquoi on est allé à 62 ans, on aurait très bien pu rester à 60 ans.
Non, 60 ans, c'est une proposition un peu démagogique dans l'État. Si on a été. Le projet de la CFDT, c'était garder les 62 ans, garder la durée de cotisation telle qu'elle était et améliorer justement socialement toutes les mesures, donc les carrières longues, la pénibilité, refaire un système de retraite. Juste, vraiment juste et social, et bien sûr discuter du financement parce que on est là pour ça. Après, dans le financement, c'est ce que je disais, on avait d'autres propositions qui n'ont pas été retenues. Là, pour le coup, c'est le gouvernement qui était sur vraiment une position. Nous, on veut les 60. Enfin, ils ont annoncé 65 au départ de la discussion et est revenu sur 64 ans.
Dans un contexte plus général, on voit cette réforme des retraites. Un sondage disait que pratiquement 80% des Français ne sont pas d'accord avec cette réforme. Ils trouvaient que finalement, c'était très bien comme c'était, même s'il y avait quelques améliorations sans doute à apporter, mais que c'était très bien comme c'était ce régime de retraite que l'on avait jusqu'à présent. On arrive aussi avec cette réforme dans un contexte très particulier, très tendu, contexte social, contexte économique, très tendu. Là, on voit déjà, l'Union syndicale a annoncé au niveau national cette journée, ce mouvement de grève important. C'est la première fois d'ailleurs que l'intersyndicale est d'accord depuis une douzaine d'années à peu près.
Non, c'est pas la première fois depuis une douzaine d'années. On se rejoint souvent. Alors, au niveau confédéral.
Non, mais ça prend une telle ampleur.
Ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas fait de front syndical aussi uni avec les organisations de jeunesse et tous les syndicats. Faut le reconnaître. Après, on se parle souvent. On travaille. Bien sûr, il y a des coopérations au niveau des entreprises, des branches. On fait souvent des intersyndicales. Il n'y a pas de souci. On se parle souvent.
Il y a un dialogue
très régulier. Après, sur l'action, c'est pour ça, s'il y a 80% des Français qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, moi je les invite à venir jeudi prochain à la manifestation, donc le 19, donc proche de chez vous. Il y aura sûrement des communications d'ici là pour les lieux de manifestation, mais j'invite toute la population, tous les salariés, les travailleurs, les fonctionnaires, tous ceux qui se sentent lésés, de venir manifester. Il faut qu'on montre au gouvernement qu'on n'est pas d'accord et que cette réforme est injuste. C'est vraiment une taxe sur les travailleurs. Comme je le disais en début, les entreprises ne sont pas mises à contribution. Donc il faut... Le seul moyen de faire reculer le gouvernement, c'est d'être très nombreux dans la rue, de frapper très fort, très vite, pour montrer notre détermination au gouvernement, parce que la présentation sera lundi prochain, je crois, au Conseil des ministres. Donc c'est pour leur montrer que la rue, là, pour le coup, la CFDT y est, et on veut être très visible et frapper fort.
Cette union syndicale... Et en l'occurrence, avec la CFDT, est-ce que cette union syndicale peut faire reculer si la masse est là, si les gens battent le pavé jeudi? Est-ce que vous espérez finalement que ça fasse reculer le gouvernement?
Ah mais j'espère pas. J'en suis sûr.
Vous en êtes sûr?
J'en suis sûr. Voilà, s'il y a une forte, et j'insiste sur le très forte mobilisation. On sait que le contexte économique est difficile. On sait que les gens ont du mal à finir les fins de mois. On ne vous demande pas de faire grève peut-être sur toute une journée, mais juste débriller, venez participer, retournez dans votre entreprise travailler. La manifestation, c'est 2-3 heures peut-être. Venez participer, montrez votre désaccord avec cette réforme et retournez travailler. On comprend bien les difficultés financières. On ne demande pas voilà, une journée de grève, mais venez participer à la manifestation jeudi prochain.
Qu'est-ce que ça peut être la suite? Le retrait du texte une renégociation ou une négociation pour le coup du texte?
Dans l'immédiat, ce serait peut-être un retrait du texte. Voilà, parce que on voit bien qu'ils ont enclenché la mécanique. Mais après, on est ouvert. Nous, on est la CFDT, on est ouvert à la négociation. Donc, on veut bien rediscuter. Par contre, notre ligne rouge ne bougera pas. C'est-à-dire que l'âge de recul de la retraite et l'allongement de la cotisation, c'est non.
Avec aujourd'hui, alors je parlais du contexte tout à l'heure, aussi une grande précarité, il y a ces travailleurs précaires, certains n'auront jamais de retraite. Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose, un fonds particulier pour ces personnes qui n'ont pas eu de carrière ou qui ont eu des difficultés ou des petites carrières, des petits boulots? Parfois même, il faut bien le dire, certains ont travaillé au noir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre en compte ces gens qui vont se sentir oubliés finalement dans cette réforme?
Bien sûr, là on voit qu'ils vont avoir, ils ont des carrières complètement hachées. Du coup, on voit bien, ils vont se retrouver sous le seuil, avec très peu de choses, très peu d'argent pour vivre derrière. Donc oui, il faudrait un fonds de solidarité pour pouvoir les aider et les rehausser un seuil convenable pour pouvoir vivre.
Ouais. Voilà, finalement un seuil minimum de retraite. Alors, on a parlé de ce minimum retraite qui sera fixé à 1200 euros brut, c'est ce qui est dans le texte par mois. Mais finalement, on n'a pas tellement les contours de ces 1200 euros. Comment ils vont être financés? Qui est-ce que ça va concerner?
Alors du coup, c'est pareil de ce que j'ai entendu hier soir, c'est pour ça que je parle entre guillemets, donc c'était bien les 85% du SMIC, donc ça je crois que c'était une application juste légale de ce qui a été déjà voté précédemment, mais il n'y avait pas de contrainte pour pouvoir la mettre en place, donc on va dire que c'est juste une application de la loi en fait qui vient de se mettre en place. Nous la CFDT, on revendiquait c'était 100% du SMIC. Voilà, parce que déjà, vivre avec un SMIC, c'est compliqué. Alors, en retraite, c'est sûr, on va nous dire, certains ont pu investir dans leur maison, donc ils n'ont pas... Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, tout le monde ne peut pas être propriétaire, donc il y a des retraités locataires, donc ça peut être très compliqué, et les frais ne sont pas forcément les mêmes. Donc on se disait 100% du SMIC, la revendication c'était ça, avec l'indexation, bien sûr, sur le SMIC, sur l'évolution du SMIC.
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parlait de précarité, là encore... aujourd'hui, on voit ne serait-ce que les coûts de l'énergie, on en parle souvent, à ce micro qui explose. On va se retrouver, ce texte est appliqué, comme il est aujourd'hui, avec des retraités pauvres en France. Il y en a déjà.
Il y en a déjà, et les nouvelles générations, de retraités, j'entends, vont s'appauvrir. Ça, c'est clair. Et en plus, il y a le côté aussi santé. On va travailler 2 ans de plus. On a une productivité en France qui est quand même très importante. On a de la pénibilité très importante. Alors, j'ai entendu le gouvernement qui veut travailler sur la prévention. C'est très bien, mais on a 30 ans de retard. Mmh. Donc la prévention, ça fait un moment qu'il fallait s'y mettre. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais on va pas assez vite et on va pas assez loin. Et on sent beaucoup de freins du côté patronat pour la prévention, parce que forcément, ça coûte de l'argent. Donc qui dit argent, bon, bah, on va aller voir l'État pour essayer d'avoir un peu de chèque, quoi. Donc c'est pas entendable. C'est vraiment pas entendable.
Alors, il y a aussi la jeune génération. Hein. On l'évoquait tout à l'heure avec une jeune génération qui va avoir d'autres carrières que ses aînés. Avant, on rentrait dans une entreprise, on y faisait quasiment toute sa carrière. Après, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, c'est très différent. Les jeunes veulent choisir leur travail, choisir leur métier. Bon, un jour, c'est bien. Puis alors, le lendemain, on passe à un autre métier parce qu'on a d'autres aspirations. Puis, il y a aussi une envie de profiter de la vie beaucoup plus importante aujourd'hui, de profiter des loisirs, finalement de gagner sa vie et de la dépenser et de vivre de façon un peu moins pénible que les aînés. Comment on va faire dans les années qui viennent, justement, pour imaginer un système de retraite qui va coller à ces changements presque sociétaux au niveau du travail ?
Voilà, clairement, le projet présenté tel qu'il est ne colle pas aux enjeux sociétaux de l'avenir. Enfin, ça va être quoi dans les 5-10 ans à venir ?
Ça va aller très très vite.
Et du coup, on pose la question. Enfin, nous, on est ouvert à la discussion. Mais voilà, c'était ça la projection qu'il fallait faire, c'était ça le travail, c'était de voir les enjeux. Alors on sait que les nombres d'actifs va diminuer par rapport au nombre de retraités. Très bien, mais comment on fait ? Comment on fait ? Est-ce qu'on... comment on fait pour le financer ? Comment on fait pour rentrer quand même les jeunes sur le marché du travail ? Comment on prend en compte les nouvelles aspérités des nouvelles générations ? Enfin voilà, des volontés. Comment on fait ? Mais pour ça, il faut en discuter et il faut se mettre autour de la table et pas avoir de position strictement budgétaire. Parce que là, ce que cherche le gouvernement, clairement, c'est une réforme juste budgétaire. Donc ils nous ont mis quelques petites réformes pour essayer de faire passer un peu la pilule, quelques petites avancées pour faire passer la pilule, mais le si peu d'avancées ne compense en aucun cas l'âge de retraite. Enfin, l'âge de recul de départ à la retraite.
On est sur une réforme purement, permettez-moi le terme, comptable, finalement.
Oui, mais complètement. Et le but, on le voit bien, c'est de dégager du cash. Parce que quand on voit qu'à terme, l'équilibre sera normalement atteint en 2030, il passera en bénéfice. En bénéfice, il va y avoir un bénéfice. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bénéfice ? Et là, ils le voient bien, enfin, ils le disent un peu moins maintenant, mais c'était pour financer l'hôpital, pour financer des projets sur la transition écologique.
Emmanuel Macron l'a dit, chaque euro investi servira...
C'est pas le but. Le but, quand on cotise pour la retraite, c'est bien pour le système de retraite. C'est pas pour aller payer l'hôpital. Je vais pas aborder le sujet de l'hôpital, mais...
on peut en dire un mot, parce que là aussi, il y a des carrières pénibles.
Justement, il y a des carrières pénibles, mais pourquoi ? Enfin, c'est pas le même budget. Et en plus, je veux juste revenir sur l'emploi. Enfin, quand on voit que sur l'emploi des seniors, il y a 56% des seniors qui travaillent, donc ça, et alors que dans les pays, en Allemagne par exemple et en Suède, qui sont souvent cités en exemple, c'est 70%. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement nous propose un index. On a bien vu l'index sur l'égalité homme-femme, ce que ça a donné. Donc les entreprises, le temps de le mettre en place, ils ont mis plusieurs années. Ça ne marche pas beaucoup. Il n'y a pas de contrainte. Il y a zéro contrainte. Donc au final, ça ne change rien. Oui, on a des statistiques, mais ça ne change rien. Donc à mon avis, l'index, on pourra le mesurer. En plus, j'ai mis des guillemets, ça concerne les entreprises de plus de 1000 au départ, après de plus de 300. Donc quid des PME, des TPE.
Des micro-entreprises.
Des micro-entreprises qui sont quand même un maillon très fort en France et surtout en
très
Bretagne.
Très nombreuses, voilà. Et souvent, elles sous-traitent, elles travaillent avec justement les grandes entreprises.
Ben, c'est ça. Du coup, quid de ces entreprises-là et quid de l'efficacité ? Oui, on va avoir des statistiques, mais derrière, zéro contrainte. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était que, oui, ok, très bien pour l'index, mais derrière, obligation de négocier un accord senior dans les entreprises. Et si vous ne le faites pas, pour maintenir l'emploi, et puis justement, on en parlait, pour pouvoir peut-être partir en retraite plus tôt, faire du tutorat. Et si vous ne le faites pas, amende. Voilà, il faut une contrainte, parce qu'on le voit bien, s'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de résultat.
Le MEDEF, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt réjoui hein, de cette possible réforme. Je dis possible, hein, parce que tout reste ouvert au moment où l'on se parle. On a le sentiment que là aussi, il n'y a pas eu de discussion. profonde avec les représentants du patronat. Est-ce que vous le regrettez ? J'imagine que oui. J'anticipe un peu votre réponse.
Après, on le regrette. Après, on connaît leur position. Enfin, là, pour le coup, chacun était un peu en silo. Nous, on était sur le silo salarié. Eux sont sur le silo patronat. Enfin, c'est le but. Après, il n'y a pas eu d'échange. Moi, j'ai rencontré le MEDEF, pour rien vous cacher, lundi. Mmh. On en a discuté. Après, voilà, chacun campe sur ses positions et n'a pas, bien sûr, le même point de vue. Par contre, voilà, quand on met en face l'emploi senior, enfin, ça dépend pas des seniors. Les seniors veulent travailler. Mmh. Là, c'est quelque chose où ils ont la main. Ils ne font rien pour ça. Donc là, c'est leur responsabilité. Et on convient de demander, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois seniors, enfin de seniors au travail au moment de partir à la retraite, de demander à tous les actifs de reculer de 2 ans pour pouvoir... Voilà, il y a un juste, milieu à trouver quand même.
Pour les seniors, là aussi, il y a la base de la volonté, vous le disiez tout à l'heure, partir en retraite de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus, j'allais dire longue, hein, ce départ long à la retraite, cette transmission. Est-ce qu'aujourd'hui, on a passé finalement travailler sur la transmission de l'ancienne génération à la nouvelle génération ? Parce que c'est très brutal, le départ en retraite aujourd'hui.
Ah oui, alors je sais que dans certaines entreprises où il y a du dialogue social... Il y a des accords qui sont mis en place justement pour favoriser cette transmission. Donc même dans les petites entreprises, hein, ça se fait, voilà, il y a des petites, pas besoin de faire des accords très longs, mais il y a des accords qui sont mis en place et qui se passent très bien, où les salariés peuvent partir plus tôt. Alors le patron continue de payer les cotisations retraite sociale et du coup font des actions de tutorat, de pour aider les jeunes à rentrer dans le métier. Et ça, c'est chouette et c'est ce qu'il faudrait qu'on démocratise vraiment partout.
Et c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, Johan Bouguet, parce que je pense qu'il y aura une suite à ce projet de réforme des retraites et vous serez amené sans doute à venir à nouveau au micro de la matinale. Johan Bouguet, secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin pour commenter ces premières mesures annoncées par Elisabeth Borne autour de cette prochaine ou future réforme du régime de retraite. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.